Nous lirons le verset 42. Matthieu, chapitre 12, verset 42. Alors, je tiens à vous inviter, ceux et celles qui n'ont pas encore goûté aux joies de l'étude biblique du mercredi soir à venir. On passe de très, très bons moments. De voir le nombre de personnes qui sont présentes, c'est merveilleux aussi. On est tout près de 25 maintenant, entre 20 et 25, et on passe de très, très bons moments dans Matthieu. On est rendu au chapitre 5 avec le sermon sur la montagne. Ce qui réjouit mon cœur cette année, je trouve qu'il y a beaucoup plus d'interactions. Les gens ouvrent plus leur cœur aussi à partager des choses et on voit comment le Seigneur travaille dans les vies. On vous invite aussi, pour ceux et celles qui ont la capacité, la possibilité de se déplacer le jeudi soir aux réunions de prière aussi, bien vous êtes invités. On était 21 journée un soir et aussi les cœurs s'ouvrent et les gens partagent des choses, des fardeaux, on pleure ensemble, on rit ensemble. Mais c'est ça la communion fraternelle et on vous invite à venir aussi. Donc en parlant de réunions de prière, c'est jeudi prochain, c'est chez Christine et Michael. Ça va, Michael? C'est toujours bon? Christine et Michael. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera, parce qu'elle vint des régions les plus lointaines de la terre pour écouter les paroles pleines de sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Ce matin, frères et sœurs, nous allons parler de Jésus, notre grand sauveur. Amen. Amen. Eh bien, le roi Salomon, dans le passé, a reçu la visite de la reine de Saba. Elle est venue le rencontrer et elle a vu toute la sagesse, la richesse et les œuvres de Salomon. Et lorsqu'elle vit tout ce que Salomon possédait, elle en a eu le souffle coupé. On va voir le texte tantôt, le souffle coupé. Alors, ouais. Frères et sœurs, je ne sais pas si ce sera la même chose quand on va voir... Quand le Seigneur Jésus va nous dévoiler tout ce qu'il nous réserve, mais on va probablement, nous aussi, avoir le souffle coupé. Oui. Oui. Alors, vous imaginez, le Seigneur, il nous dit, il y a quelqu'un ici de plus grand que Salomon. Vous imaginez toute la richesse, la sagesse que Salomon avait. Le Seigneur Jésus ne peut pas nous désappointer. Imaginez ce qu'il est en train de nous préparer. Imaginez ce qu'il nous réserve pour l'éternité. Pas pour une époque bien particulière, pour l'éternité. Wow! Wow! Et j'espère que vous êtes encouragés ce matin. Encouragés. Quand on regarde les signes des temps, hein, le Seigneur Jésus revient bientôt. Il achève de nous préparer cette place. Il achève. Il revient. Et j'espère que vous vivez en fonction de cette espérance ce matin. Le Seigneur Jésus revient. Et Jésus dit aux pharisiens, « Voici, il y a ici plus que Salomon. » Pourquoi Jésus va-t-il dire cela? Eh bien, les pharisiens critiquaient Jésus, ils le fustigeaient, ils le questionnaient, ils le jugeaient. Et Jésus va leur dire, écoutez bien, la reine de Saba est venue des extrémités de la terre, probablement à ce moment-là d'Éthiopie. Et lorsqu'elle vit ce que Salomon avait accompli, les paroles de sagesse qu'il a prononcées, elle s'écria, ta sagesse et ta prospérité dépassent tout ce que j'avais entendu dire. Un roi, chapitre 10, verset 7. Et Jésus va dire aux scribes, aux pharisiens, « Vous ne voyez pas jusqu'à quel point il y a quelqu'un de plus grand que Salomon ici. » Imaginez ce qu'ils ont pu penser. Lorsque Jésus, ce fils de charpentier, qui était peut-être considéré comme un paysan aussi, va leur dire, « Il y a quelqu'un ici de plus grand que Salomon. » Imaginez que, bon, je ne me prends pas pour Jésus, mais imaginez que Jésus, il est là, ici. Là. Et là, il s'adresse, vous êtes la foule, je ne dirais pas les scribes et les pharisiens, mais vous faites partie de la foule qui entendait les paroles de Jésus. Et à travers ces certaines paroles qu'il va prononcer, il dit, « Il y a quelqu'un ici de plus grand que Salomon. » Rappelez-vous que Salomon était incomparable, tant par sa grandeur que par ses richesses. Et voilà que quelqu'un qui a les pieds chaussés dans des sandales va dire aux pharisiens, aux scribes, aux gens qui sont là, il y a quelqu'un ici de plus grand que Salomon. Imaginez ces gens qui sont là en train d'écouter Jésus, ils devaient se dire en eux-mêmes, Salomon était le fils d'un roi et Jésus n'est que le fils d'un charpentier. Comment pouvait-il prétendre être plus grand que Salomon? Imaginez, Salomon était né dans un palais Et Jésus était né dans une étable. Imaginez ce que les gens pouvaient dire. Comment Jésus peut-il prétendre être plus grand que Salomon? Salomon était né dans la grande ville de Bethléem et Jésus était né dans, dans un petit village qui s'appelait Bethléem. Comment pouvait-il prétendre être plus grand que Salomon? Salomon avait des gens qui le servaient jour et nuit. Il avait toute une équipe. Jésus n'avait personne pour le servir. Plus que cela, il va dire, « Je ne suis pas venu pour être servi, je suis venu pour servir. » Comment Jésus pouvait-il prétendre être plus grand que Salomon, frères et sœurs? Salomon avait tellement d'habits royaux qu'il pouvait porter. Il avait toute une garde-robe. Alors que Jésus ne portait qu'un pauvre vêtement de paysan, un vêtement sans couture. Comment Jésus pouvait-il prétendre être plus grand que Salomon? Imaginez la foule qui entend Jésus prononcer ces paroles. Quel prétentieux! Quel vantard! Il se prend pour qui? Salomon buvait dans des coupes en or, alors que Jésus a dû un jour demander à une Samaritaine au bord d'un puits de lui donner de l'eau. Comment Jésus pouvait-il prétendre être plus grand que Salomon? Salomon possédait d'immenses richesses. Jésus était pauvre. Il ne possédait rien. Aucun bien. Pas de propriété. Pas de compte de banque. Pas de bétail. Rien. À vue humaine. Comment pouvait-il prétendre être plus grand que Salomon? Salomon possédait de nombreuses armées à sa disposition. Jésus avait seulement quelques malheureux disciples qui le suivaient. Comment Jésus pouvait-il prétendre être plus grand que Salomon? Salomon a vécu dans des châteaux alors qu'il arrivait à Jésus, de n'avoir même pas un endroit où pouvoir se reposer, déposer la tête, nous dit-il. Comment Jésus pouvait-il prétendre être plus grand que Salomon? Salomon possédait 1400 chars, 12 000 cavaliers, 4 000 étables pour faire reposer ses chevaux, et il paradait sur son char lors des défilés, alors que Jésus se déplaçait à pied. Une fois, il nous est dit qu'il était monté sur le dos d'un ânon lorsqu'il est entré à Jérusalem. Comment Jésus pouvait-il prétendre être plus grand que Salomon? Chers amis, j'aimerais regarder avec vous ce matin 5 domaines où Jésus est plus grand que Salomon. Et avant d'entrer dans de vous partager le premier domaine, je vous invite à prier. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre grâce, Seigneur, pour encore une fois la richesse de ta parole. Merci aussi parce que, Seigneur, elle nous nourrit, elle nous comble, Seigneur, elle nous comble de tes bienfaits, elle augmente en nous aussi, Seigneur, à la mesure de notre foi, parce que c'est toi qui parles dans nos cœurs par ton Saint-Esprit. Ce matin, Seigneur, nous voulons encore une fois, Seigneur, être enrichis non seulement de ta parole, mais de celui qui est la parole. Seigneur, que tu puisses parler à nos cœurs afin que nous recevions la nourriture que tu as en réserve pour chacun de nous ce matin et que nous puissions réaliser combien Jésus était plus grand, beaucoup plus grand que Salomon. Et c'est dans le beau nom de Jésus-Christ crucifié et ressuscité que je te prie. Le peuple de Dieu dit Amen. Je vous invite à retourner à l'époque de Salomon, dans le premier roi, premier livre des rois, chapitre 10. Un roi, chapitre 10. On va lire les versets 1 à 5. Un roi, chapitre 10, versets 1 à 5. La reine de Saba apprit la renommée que possédait Salomon à la gloire de l'Éternel. Et elle vint pour l'éprouver par des énigmes. C'est-à-dire qu'elle vient rencontrer Salomon pour voir jusqu'à quel point Salomon peut être quelqu'un d'intelligent. Elle arriva à Jérusalem avec une suite très imposante et avec des chameaux portant des aromates, de l'or en très grande quantité et des pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon et elle lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Salomon répondit à toutes ses questions. Il n'y en a pas eu, pas une seule, à laquelle le roi ne put pas répondre. La reine de Saba vit toute la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie, et elle en a eu le souffle coupé. En bon français, on dirait qu'elle a été sciée en deux. Ça dépassait tout ce qu'elle avait entendu. Allez maintenant au verset 24 du même chapitre. Tout le monde cherchait à voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Bien-aimés, nous parlons ici d'un homme reconnu pour sa très grande sagesse. Et lorsque vous lisez le livre des Proverbes qu'il a lui-même écrit, vous constatez que Salomon avait une connaissance incroyable sur la biologie, sur la psychologie et sur la théologie. Merci. On a de la difficulté à retenir souvent un verset biblique. Salomon connaissait 3000 proverbes. Il avait mémorisé 1005 psaumes par cœur. Mais moi, je n'ai pas besoin de dire par cœur s'il a mémorisé. Hein. Il avait mémorisé 1005 psaumes. Quelle capacité intellectuelle cet homme avait! Salomon connaissait tout ce qui concerne la création. Sa sagesse, il l'avait reçue de Dieu et non pas des hommes. Il a parlé sur la végétation, il a parlé sur les animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles et sur les poissons. Un roi, chapitre 4, verset 33. Salomon avait une connaissance incroyable sur tout l'univers créé par Dieu. Bien-aimé, il aurait réussi son examen de biologie avec une très grande distinction. Mais Jésus possédait une sagesse encore plus grande que Salomon. Car voyez-vous, c'est Jésus qui a créé tout ce que Salomon savait. Car Dieu a fait toutes choses par Jésus, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui, nous dit l'apôtre Jean dans son Évangile, au chapitre 1, verset 3. Salomon avait une connaissance incroyable sur la pêche et sur tout ce qui vit dans l'eau. Mais Jésus en connaissait encore plus que Salomon. Il demanda un jour à des pêcheurs de lancer leur filet dans l'eau. Et ils prirent une si grande quantité de poissons que leur filet menaçait de se briser. Salomon avait une connaissance incroyable sur les forces de la nature. Mais Jésus en connaissait davantage que Salomon. Jésus menaça un jour le vent. Il dit à l'eau du lac de Galilée qui menaçait ses disciples de se calmer. Le vent tomba et il y eut un grand calme, dit le texte biblique. Salomon avait une connaissance incroyable sur la navigation et sur les bateaux qui parcouraient la terre pour lui ramener de grandes richesses. Mais Jésus en connaissait davantage que Salomon. Jésus savait comment marcher sur l'eau. Salomon avait découvert que toute la sagesse qu'il possédait ne le satisfaisait pas. Peut-être que vous êtes titulaire ce matin d'un doctorat et que vous pensez que cela va vous satisfaire, mais vous pouvez terminer votre vie comme un moins que rien si vous vous reposez uniquement sur votre connaissance. Permettez-moi de lire ce que Salomon a dit concernant la sagesse qu'il possédait dans Ecclésiaste, chapitre 1, verset 17. Je me suis appliqué à connaître ce qui est sage et ce qui est insensé, ce qui est intelligent et ce qui est stupide. J'ai compris que cela aussi, c'est courir après le vent. Bien-aimé, plus l'homme connaît, plus il sait qu'il ne connaît pas. Et lorsqu'un homme est moindrement sensé, il sait qu'il ne sait pas. Il y a Jean Gabin qui a chanté un beau cantique là-dessus. À la fin de sa vie, il a dit « Je sais que je ne sais rien ». Salomon était sage, mais n'était pas aussi sage que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous voulez la sagesse? Jacques dit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Écoutez, c'est un verset qui est fort, ça. Vous manquez de sagesse ce matin? Jacques dit, demandez-la à Dieu qui donne à tous, simplement et sans reproche, elle vous sera donnée. Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas, dit Jésus. Vous avez besoin de la sagesse ce matin. Pas la sagesse des hommes, la sagesse de Dieu. Dieu dit à travers l'apôtre Jacques, demandez-la. Je donne à tous. Et on a besoin de la sagesse, non seulement de Dieu pour comprendre les Écritures, mais aussi pour mettre en application les Écritures. Et Dieu dit, je la donne à tous. Paul le dira lui-même dans une de ses épîtres, qu'il demandait l'intelligence et le discernement à Dieu pour pouvoir régler certaines choses dans différentes églises. Paul n'était pas gêné de demander à Dieu et il recevait de Dieu. Frères et sœurs, êtes-vous convaincus que ce que Dieu a donné à Paul dans ses prières, il peut vous les donner à vous aussi ce matin? Ici, il n'est pas marqué que c'est donné aux hommes ou aux femmes, ni aux pasteurs, ni aux anciens. Jacques dit, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu et cela lui sera donné simplement. C'est Dieu qui donne la sagesse. Écoutez ce que Paul dit. Dieu vous a uni à Jésus-Christ et il a fait de Christ notre sagesse. Si vous avez Jésus-Christ, vous avez la sagesse. Éphésiens chapitre 1, verset 8, « Dieu nous a ainsi manifesté la richesse de sa grâce en nous accordant avec abondance une pleine sagesse et une pleine intelligence. » Vous vous dites peut-être, il y en a peut-être parmi vous qui se disent, « Écoute, pasteur, tu rabaisses l'éducation. » Pas du tout. Mais permettez-moi de vous dire ceci ce matin. Je préfère être dans le ciel en train de chanter Jésus même, parce que je sais que c'est la vérité, que me retrouver en enfer parce que j'aurais suivi le courant de pensée de ce monde. Je me réjouis tellement de savoir que Jésus est plus grand que le roi Salomon ce matin. Salomon ne pouvait rien faire pour me sauver, malgré toute sa sagesse, toute sa connaissance, toute sa richesse. Mais je sais une chose, c'est que Jésus-Christ est suffisant pour me faire passer des ténèbres à la lumière et de me donner cette espérance vivante de passer l'éternité dans sa présence. Amen. Deuxièmement, Jésus est plus grand que Salomon dans ce qu'il a accompli. Salomon fait de grandes choses. Regardez 1 Roi, chapitre 10, verset 4. « La reine de Saba vit toute la sagesse de Salomon, mais elle a aussi vu ses œuvres. Il a fallu 13 ans pour compléter le palais dans lequel Salomon allait habiter. » Imaginez-vous que vous allez emprunter un montant à la banque et que vous dites au gérant, « Ben écoute, il dit, c'est quoi le début des travaux puis la fin? » Vous lui dites, « Ça va prendre 13 ans. » Vous vous imaginez le gérant de banque, il va vous dire, « Montrez-moi les plans le plus vite possible, je vais voir, et combien il y a d'appartements? » 13 ans pour construire le temple, le palais, pardon, de Salomon. Ce palais défie toute description. Il était luxueux et démesuré. Vous pourrez lire à la maison la description de ce palais dans 1 Roi chapitre 7. C'est inimaginable. Le roi de l'Arabie Saoudite, c'est une grange qui est à côté de la maison que Salomon pouvait posséder. Bien-aimé, Jésus est en train de construire une maison encore plus grande. Regardez dans Jean chapitre 14, versets 1 à 3. Et frères et sœurs, vous allez être surpris parce que vous êtes participants de cette maison. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi, dit Jésus. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. En d'autres mots, ça n'a pas été vrai. Je n'aurais pas raconté de bobards. Je ne vous aurais pas fait à croire des choses. Je ne vous aurais pas dit. Je ne suis pas un menteur. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous reprendrai avec moi, afin que là où je suis, là aussi vous soyez. Salomon construit un grand palais, mais grâce soit rendue à Jésus pour ce qu'il a fait. Il est plus grand que Salomon. Salomon organisait des banquets avec des tables qui débordaient de toutes sortes de bons mets. Regardez 1 Roi, chapitre 10, verset 5. La reine de Saba admira le palais qui s'était fait construire. Elle a vu la nourriture qu'on apportait sur les tables, la façon dont les gens de son entourage étaient placés, le costume de ceux qui servaient à manger, à boire dans des coupes en or. Mais Jésus a dit, un plus grand que Salomon est ici. Jésus pouvait prendre 5 pains et 2 poissons et nourrir 5 000 personnes. Salomon était incapable de le faire. Il pouvait même changer l'eau en vin. Tout ce que Salomon a fait n'a jamais pu le satisfaire. Quand vous lisez l'Ecclésiaste, mais c'est déprimant. Hein? Il ne faut surtout pas souffrir de dépression pour commencer à lire l'Ecclésiaste. Hein? Mais quand vous regardez celui qui est derrière, mais vous dites comment il a pu faire pour sombrer comme ça? Il avait la sagesse de Dieu. Il avait tout. Et il a commencé à sombrer quand il a commencé à désobéir à Dieu. Il n'a pas eu assez d'une femme. n'a pas eu assez d'une maîtresse. Il avait la sagesse de Dieu. Frères et sœurs, on a la parole de Dieu, qui est la sagesse de Dieu. Quand on désobéit à cette parole, on ne sait jamais sur quel récif on risque de faire un naufrage. Salomon possédait la sagesse de Dieu. Et c'est un avertissement pour nous ce matin de garder nos yeux dans cette parole qui nous rappelle que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Qui nous rappelle que Dieu ne change pas. C'est un avertissement pour nous. Tout ce que Salomon fait n'a jamais pu le satisfaire, mais Jésus a dit, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. » Vous savez, ce que celui qui est plus grand que Salomon nous dit ce matin, « Venez et mangez, venez et mangez. » Quand on prend la Sainte Cène et qu'il nous appelle à dire « Venez et mangez, rappelez-vous ce que j'ai fait pour vous. » Rappelez-vous ce que je peux faire pour vous. Rappelez-vous ce que je ferai pour vous. Et c'est moi qui vous invite. Venez et mangez, dit Jésus. Mon corps livré pour vous. Venez et mangez, rappelez-vous. Rappelez-vous de ce que j'ai fait. La nourriture que vous prenez, elle nourrit votre corps. La nourriture que je vous donne va nourrir votre âme, va remplir votre cœur. Et mon but, ce n'est pas juste de remplir votre cœur, c'est de faire en sorte que votre cœur déborde, dit Jésus. Amen. Et si on déborde, ce n'est pas parce que Jésus manque de nourriture, ce n'est pas parce que sa nourriture n'est pas consistante, c'est parce qu'on n'en mange peut-être pas assez. Je peux vous dire que seul Jésus peut remplir une table qui satisfera votre cœur. Bien-aimé, il y a des gens que je connais qui essayent de trouver en dehors de Jésus ce à quoi leur cœur aspire, ils ne sont jamais, jamais, jamais satisfaits. Il y a des gens qui plutôt te suivent Jésus, suivent la mode. Ils essaient de combler leurs besoins dans la mode. Que le regard soit tourné vers eux, leur cœur est toujours insatisfait. Il y en a d'autres qui essaient de suivre autre chose. Quand je vois des chrétiens qui sont branchés sur toutes les émissions de télé-réalité, mais je me dis, tu as la même souffrance que ces gens qui participent à la télé-réalité. Ces gens qui ont besoin d'être admirés, d'être adulés, d'être adorés, tellement ils ont une mauvaise image d'eux. Moi, ça me fait pleurer, ces émissions-là. Parce que finalement, au bout du compte, on se rit du malheur des autres, quoi. Encore un qui s'est suicidé la semaine passée, qui a participé à ces émissions. Quand on a terminé les émissions, tu es comme un déchet, on n'a plus besoin de toi. Les gens vont là, pourquoi, dans ces télé-réalités? En plus, je remarque qu'on ne prend pas nécessairement les plus intelligents. Hein? Ouais, pour se moquer, quoi. Quand vous les regardez, mais c'est... On ne sort pas de là plus intelligent quand on a écouté une émission. Hein? Ouais. Le crédit à l'étude biblique, on a dit que John Wesley enrageait de s'être fait voler une seule minute parce qu'il s'était occupé des choses du monde plutôt que de s'occuper des choses de Dieu. Il disait, on m'a volé une minute que je ne pourrai jamais, jamais reprendre, récupérer dans ma vie. Frères et sœurs, dans une semaine, combien de minutes laissons-nous au diable nous voler? Combien de minutes le diable nous vole? Parce qu'il y a encore des choses du monde qui nous attirent. Des minutes qu'on ne pourra jamais récupérer. Jamais. Qui sont perdues pour l'éternité. Frères et sœurs, seul Jésus peut satisfaire les cœurs qui ont faim et soif de justice. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Amen. Êtes-vous rassasiés ce matin? Est-ce que Jésus-Christ suffit? Est-ce que Jésus-Christ vous suffit ce matin, frères et sœurs? Le temple que Salomon construit était d'une grandeur et d'un luxe incomparable, au point où lorsque la reine de Saba vit les sacrifices que Salomon offrait au Seigneur dans le temple, qu'elle en a eu le souffle coupé. 1 Roi chapitre 10, verset 5. C'était beaucoup plus que ce à quoi elle pouvait s'attendre. À quoi ressemblait le temple de Salomon? On nous dit que c'est le bâtiment le plus magnifique, le plus grandiose qui ait jamais été construit. 183 000 ouvriers ont travaillé jour et nuit pendant 7 ans pour construire, 7 ans et demi pour construire le temple de Salomon. 183 000, c'est tout un chantier, hein? 183 000, jour et nuit pendant 7 ans et demi. David, le père de Salomon, avait amassé de l'or, de l'argent, du cuivre, des bijoux et du bois de cèdre pour construire ce temple. Dieu lui-même a dessiné les plans de ce temple. C'est lui qui en fut l'architecte. Et il a béni les ouvriers du début jusqu'à la fin de cette construction. Mais Jésus a construit un plus grand temple, frères et sœurs. Voilà pourquoi il est plus grand que Salomon. Où se trouve ce temple, frères et sœurs? Ici. Là. Je suis le temple. Vous êtes le temple du Saint-Esprit, frères et sœurs. Rappelez-vous ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Voulez-vous voir le temple de Dieu, celui qui est encore plus grandiose que le temple de Salomon? Il est ici. Regardez, vous êtes le temple de Dieu, frères et sœurs. Est-ce que vous y croyez? » Dans le temple de Dieu, frères et sœurs, il y avait trois parties. Le parvis, le lieu saint, et le lieu très saint. Où se trouve, dans votre temple ce matin, où vous trouvez-vous? Le parvis, c'est les païens, c'est les gens du monde, c'est les chrétiens, les gens qui se disent chrétiens, qui vivent comme les gens du monde. Le lieu saint, c'est les chrétiens qui ont un pied dans le monde, un pied dans le Seigneur. Et le lieu très saint, c'est là où Dieu trouve son plaisir. C'est là où la présence de Dieu déborde. C'est là où on se dit, Seigneur, j'arrête de te regarder, sinon je vais mourir. Tellement que la puissance de Dieu se manifeste dans nos vies. Tellement que la présence de Dieu se manifeste dans nos vies. Tellement que nos cœurs sont remplis. Tellement que nos cœurs débordent. Frères et sœurs, vous êtes le temple de Dieu. C'est extraordinaire quand on pense à ça. Et Dieu en est toujours l'architecte. C'est lui qui construit son œuvre en vous. C'est lui, par son Saint-Esprit, qui fait en sorte de provoquer des choses dans votre vie pour faire en sorte que vous soyez le lieu très saint, un endroit où il désire, où il prend plaisir à habiter. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait un temple pour son peuple. Je le répète, dans l'Ancien Testament, Dieu avait un temple pour son peuple. Dans le Nouveau Testament, Dieu a un peuple pour son temple. Vous êtes le temple de Dieu. Est-ce que vous réfléchissez à ça? C'est lourd, ces mots-là. On les lit, mais si on commence à les méditer, vous êtes le temple de Dieu. Celui dont la demeure est dans les cieux a décidé de faire sa demeure en vous. Il n'a pas laissé sa puissance au ciel quand il a décidé de faire sa demeure en vous et en moi. Il a aussi amené sa puissance en nous. Et ce qu'il est capable d'accomplir au ciel, il veut aussi l'accomplir à travers vous. Parce que vous êtes son temple. Parce qu'il y demeure. Frères et sœurs, vous n'êtes pas n'importe qui en Jésus-Christ. Vous n'êtes pas n'importe qui, réalisez-vous ça. Mais le défi, le combat spirituel, c'est que le diable va tout faire pour empêcher Dieu de manifester sa présence et sa puissance à travers vous. Et on doit confesser, jamais inclus dans le groupe, qu'on tombe souvent dans le panneau. Combien d'heures on se fait voler à écouter le foot? Combien d'heures on se fait voler à écouter toutes sortes de séries? Combien d'heures on passe devant la télévision dans une semaine? Je ne suis pas en train de dire que c'est péché, hein? Regarder la TV. Je suis simplement en train de dire que si on regarde plus souvent la TV qu'on lit la parole, là, on a un gros problème en tant que chrétien. On devrait consacrer le même temps à la parole qu'à regarder la télévision. Et là, je pense qu'on a la conscience tranquille à ce moment-là. Mais si on prend le temps de regarder, de lire la Bible comme on devrait, on prend le temps de regarder la TV, on va finir par manquer de temps de regarder la TV. Nous sommes maintenant le temple du Dieu trois fois saint. Le temple de Salomon, frères et sœurs. Voilà pourquoi Jésus est supérieur à Salomon. Le temple de Salomon, il n'existe plus. Il a été détruit. Mais nous qui sommes le temple du Saint-Esprit, nous ne serons jamais détruits. Bien-aimés, je suis le temple de Dieu. Vous êtes le temple de Dieu. Un plus grand temple que celui de Salomon a été construit. Et c'est en vous que Dieu l'a construit, frères et sœurs. Amen. C'est en vous que Dieu l'a construit. Frères et sœurs, le salut, ce n'est pas de prendre l'homme sur la terre pour qu'il soit reçu au ciel. Le salut, c'est plutôt amener Dieu à descendre du ciel pour qu'il soit reçu dans le cœur de l'homme. C'est ça, le salut. Nous sommes maintenant le temple de Dieu. Non seulement Jésus est plus grand en sagesse que Salomon, non seulement Jésus est plus grand que dans ce qu'il accomplit que Salomon, mais troisièmement, Jésus est plus grand que Salomon dans la manière dont il a traité ses serviteurs. 1 Roi, chapitre 10, versets 6 à 8. Salomon avait des ouvriers qui étaient heureux de travailler avec lui, et de travailler pour lui. Regardez 1 Roi, chapitre 10, versets 6 à 8. Il est écrit, « La reine de Saba en eut le souffle coupé, et elle dit au roi ceci, « C'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Je ne le croyais pas avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'en avait pas dit la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que la renommée ne me l'a fait connaître. » Heureux tes gens, heureux tes serviteurs. Et il est en train de dire à Salomon ici, écoute, je n'ai jamais vu tes gens aussi heureux. Ces gens qui travaillent pour toi, ce sont les gens les plus heureux que j'ai jamais vus. Quel privilège pour tes femmes et pour les gens de ton palais. Ils se trouvent toujours en ta présence. Ils peuvent aussi entendre continuellement tes paroles pleines de sagesse. Les ouvriers de Salomon étaient heureux de travailler pour lui. Ils bénéficiaient d'une grande bénédiction. Frères et sœurs, nous qui sommes le temple de Dieu, nous qui sommes le temple du Saint-Esprit, nous qui sommes appelés à servir le Seigneur Jésus, est-ce que nous sommes heureux? Est-ce que nous trouvons notre joie à le servir? Comme les serviteurs de Salomon trouvaient leur joie à servir le roi. Frères et sœurs, nous servons le roi des rois. On est nul, on n'est même pas qualifié pour le servir. C'est Jésus-Christ qui nous qualifie. Est-ce qu'on est dans la joie de le servir? Vous imaginez, les serviteurs étaient dans la joie de servir un roi terrestre. Nous, nous servons le roi des rois, frères et sœurs. Est-ce que vous êtes dans la joie de savoir que vous servez le roi des rois? Oh, gloire à Dieu! Vous pouvez imaginer ces gens en train de servir le Dieu Tout-Puissant dans la cour du roi Salomon, entouré par toute cette richesse somptueuse. Imaginez la nourriture que ses serviteurs recevaient, la manière dont ils étaient vêtus, le salaire qu'ils touchaient. Ils étaient les serviteurs d'un roi tellement sage et riche. Frères et sœurs, imaginez le salaire qui vous attend au ciel, la récompense qui vous attend, parce que vous aurez été fidèles, vous aurez servi fidèlement le Seigneur Jésus-Christ. Simplement d'entendre dire le Seigneur, entre, bon et fidèle serviteur, entre dans la présence de ton maître. Entre dans la présence de ton maître. Et là, on va voir les portes du ciel qui vont s'ouvrir. Et on va voir ce que le Seigneur Jésus nous a préparé pour l'éternité. Aïe, aïe, aïe. Heureusement qu'il n'y aura pas de regret au ciel parce qu'on se frapperait la poitrine pendant des siècles en disant, idiot que j'ai été, imbécile que j'ai été, de garder mes yeux sur les choses qui étaient appelées à périr. Mes amis, Jésus est plus grand que Salomon dans la manière dont il traite les serviteurs et qui lui sont fidèles. Les serviteurs de Salomon étaient heureux Mais Jésus donne en plus encore, Jésus donne une joie et une paix inexplicables à ceux qui lui sont fidèles. Philippiens chapitre 4, verset 7. Jésus nous donne une joie qui dépasse tout ce que l'homme peut comprendre, une joie qui demeure et qui est contagieuse. Qui est contagieuse. Je vous fatigue avec ça, mais le premier chrétien que j'ai eu, là, c'est cette joie, elle était contagieuse. Je voulais l'attraper. Il n'y a personne qui va attraper l'herpès, il n'y a personne qui va attraper une maladie vénérienne. Pourtant, c'est des maladies qui sont contagieuses. Hein? On ne court pas après, hein? Quoique. Mais la joie du Seigneur, quand elle devient contagieuse, là, et que vous regardez le chrétien et que vous vous dites, ce qu'il y a, là, c'est ce que j'ai cherché, je cherche depuis toute ma vie. Et c'est ça qui m'a attiré. Hein? Il n'a pas annoncé l'Évangile, hein? Il était un Évangile vivant. Le Seigneur Jésus rayonnait dans sa vie. Le Seigneur Jésus, il régnait dans sa vie. Et il y a une petite voix qui est sortie comme ça dans mon cœur. Hein? Ce que tu cherches, Jacques, depuis toujours, il l'a, lui. Et j'ai posé un paquet de questions parce que je voulais l'avoir. Je tournais autour. Même trop orgueilleux pour y demander. Je tournais autour. Une soirée. Et j'ai partagé ma vie. Les restaurants, si, ça. Il m'a dit, tu sais, ça te coûte tes sorties, Jacques. Ce que j'ai, c'est gratuit. Il n'y a pas un seul dollar qui peut l'acheter. Il n'y a personne qui a les moyens d'être payé. Le Seigneur va te le donner gratuitement. Une joie contagieuse. Frères et sœurs, est-ce que nous sommes des chrétiens contagieux? Est-ce que nous rendons témoignage aux gens de la joie et de la paix qu'on a reçue en Jésus-Christ. Ça ne va pas dans votre vie, vous souffrez, vous êtes persécuté. L'apôtre Paul, il dit, c'est une grâce que Dieu vous fait. Vous êtes sur la bonne route. Réjouissez-vous, dit Paul. C'est une grâce. On ne la veut pas, celle-là. Hein? On veut toutes les autres grâces, mais pas celle-là. Et pourtant, Jésus l'a dit dans Marc, hein, avec toutes les promesses qu'il a faites, il nous a dit aussi, la persécution, ça fait partie de ses promesses. Et frères et sœurs, c'est quand on dérange le royaume des ténèbres, on est persécuté. Quand on dérange le royaume des ténèbres, les gens commencent à parler mal de nous, on dérange. Y compris dans l'Église. Surtout dans l'Église. J'ai eu beaucoup moins de persécution à l'intérieur qu'à l'extérieur que dans l'Église. Frères et sœurs, avez-vous cette joie contagieuse que nous recevons de Jésus-Christ quand on le rencontre, quand on est en communion avec lui? Les serviteurs de Salomon ont dû renoncer à toutes ces choses qui leur ont apporté leur bonheur. Ils sont tous morts et tout ce qu'ils ont fait également. Le palais est disparu, les tables bien garnies ont disparu, les beaux vêtements sont disparus. Salomon n'est plus. Mais frères et sœurs, la source de ma joie, elle n'a pas diminué parce que ma joie ne dépend pas de ce qui arrive dans ma vie, mais elle dépend du Seigneur Jésus-Christ. Amen! Notre joie, elle dépend du Seigneur Jésus-Christ. T'es malade, arrête de pleurer. T'es dans un corps mortel, tu dois t'attendre à être malade un jour. Il y a combien de monde, le pourcentage de monde qui meurt en bonne santé? En principe, quand on est en bonne santé, on ne meurt pas. On risque tous d'être malade un jour. Tous. Peut-être qu'on essaye de tous de prolonger notre vie. Par rapport à nos proches, par rapport à nos enfants, par rapport à tout ce qu'on a. Mais frères et sœurs, on va tous tomber malades. Des maladies plus importantes que d'autres. Entre autres, la pire, c'est de mourir subitement. Pour ceux qui n'ont pas eu le temps de se préparer. C'est la pire. De se coucher le soir et de pas savoir si tu vas te réveiller le lendemain matin. Alors que quand tu as le cancer, tu as quand même un certain temps pour te préparer. Quand tu as de l'insuffisance cardiaque, tu as quand même un certain temps pour te préparer. Quand tu fais de l'insuffisance pulmonaire, tu as quand même un certain temps pour te préparer. Mais quand tu te couches puis tu penses que tu vas te lever le lendemain matin, puis le Seigneur dit, c'est maintenant, cette nuit, tu t'en viens. Et tu n'as pas pris le temps de préparer ton âme. C'est lourd. Je suis grandement béni que Dieu m'a permis de le servir pendant toutes ces années. Et d'être le pasteur de cette chère communauté d'Edelin, qui est composée de gens qui se réjouissent en Jésus. Lui qui traite ses serviteurs qui lui sont fidèles et qui les récompense encore plus que Jésus, que Salomon pouvait le faire avec ses serviteurs. merci pour le Seigneur Jésus qui m'a donné ses frères et sœurs, à travers lesquels vous avez pu participer à ma formation, à travers lesquels Dieu m'a permis de ressembler de plus en plus à Jésus-Christ. Et ma prière ce matin, c'est que Dieu puisse faire la même œuvre dans votre vie qu'il a faite dans la mienne. De simplement penser qu'un jour on pourrait se quitter, c'est d'une grande tristesse dans mon cœur parce que je suis très attaché, pas à ce bâtiment, mais à ceux qui sont membres de cette Église. Le rôle de pasteur, ce n'est pas un rôle facile. On est là pour prêcher l'amour de Jésus, on est là pour prêcher la justice de Dieu. On est là aussi pour intervenir quand il y a des brebis qui s'éloignent. Ça, c'est le travail le moins facile à faire. Mais je rends grâce à Dieu pour la communauté qu'il m'a donnée, pour la famille qu'il m'a donnée. J'ai fréquenté 8 églises dans ma vie. Vous êtes ma famille spirituelle. Vous êtes vraiment ma famille spirituelle. Et je ne retournerai jamais au Québec. Ça, c'est une des raisons pourquoi je ne retournerai jamais au Canada. De pouvoir passer ma vie avec vous, non seulement la vie terrestre, mais l'éternité, ça réjouit mon cœur. Jésus est encore plus grand que Salomon, quatrièmement, dans les richesses qu'il possède. Salomon était riche. Regardez dans 1 Rois, chapitre 10, versets 10 à 14. Le roi Salomon va y arriver à Jérusalem, un total, écoutez bien le nombre. En Louis II, c'est difficile, j'ai dit, tiens, je vais aller le chercher dans le français courant. Il recevait 20 tonnes d'or par année. 20 tonnes d'or. Je ne sais pas combien un camion, une boîte de camion peut contenir, mais imaginez le nombre de camions qui débarquaient chez lui. 20 tonnes d'or par année. Il faut ajouter les taxes prélevées sur les importations, les commerces et les impôts payés par les rois d'Arabie que le roi Salomon a perçus à travers les gouverneurs du pays, qui faisaient entrer d'innombrables richesses dans les coffres de Salomon. Il n'y a probablement aucun homme, depuis que le monde existe, qui a eu autant de richesses que le roi Salomon. Le verset 23 du chapitre 10 le résume bien. Le roi Salomon surpassait tous les autres rois de la terre par ses richesses et par sa sagesse. Le roi Salomon avait des bateaux qu'il envoyait en expédition lointaine. Tous les 3 ans, ces bateaux revenaient chargés d'or, d'argent, d'ivoire, de singes et d'oiseaux exotiques. Le roi Salomon surpassait tous les autres rois de la terre par ses richesses et par sa sagesse. En effet, Dieu lui avait accordé, 1 roi chapitre 10, hein, que je suis en train de lire, versets 22 à 25. En effet, Dieu lui avait accordé une telle sagesse que des gens venaient de partout pour le consulter. Année après année, tous ces gens lui apportaient en cadeau des objets d'argent et d'or, des vêtements, des armes, des parfums, des chevaux ou des mulets. Salomon était riche, frères et sœurs, mais Jésus était encore plus riche. Psaume 21, verset 1. C'est au Seigneur qu'appartient le monde, avec tout ce qu'il contient, la terre avec ceux qui l'habitent, tout le bétail qui se trouve sur des milliers de collines, dans les prairies, appartient à Jésus, ainsi que tous les diamants et les rubis qui se trouvent dans le sous-sol de la terre. Toutes les étoiles dans le ciel appartiennent à Jésus. Il leur a même attribué à chacun un nom, nous dit le psalmiste dans le psaume 147, verset 4. Il leur a donné à chacun un nom. Bien aimé, Salomon était riche, mais il n'a rien laissé en héritage. Jésus est supérieur à Salomon parce qu'il nous a donné tout un héritage, frères et sœurs. Il nous a laissé tout un héritage. Jésus a fait de moi quelqu'un qui est tellement riche que je ne devrais jamais ce que je possède en Jésus. Je prends Dieu à témoin, si vous remplissez ce bâtiment de rubis, d'or, d'argent, de diamants, d'actions et d'obligations, je n'aurais même pas besoin d'une seule minute pour faire un choix parce que Jésus m'offre tellement plus, frères et sœurs. Amen. Si on en est convaincu, pourquoi il y en a qui sont en train de perdre leur vie à essayer de ramasser, d'accumuler continuellement des biens et qui se disent chrétiens? John Wesley aurait pu devenir multimillionnaire avant de partir. Il est mort avec une cuillère, une fourchette et sa Bible. Tous les droits d'auteur sur ses livres, il les a tous donnés pour l'avancement du royaume de Dieu. Il a fait comme Jésus, il est parti avec rien. Il savait ce qu'il attendait là-haut. Il connaissait la maison qu'il attendait là-haut. Il connaissait l'héritage qu'il attendait en haut. Et il avait les yeux fixés sur ce qu'il attendait en haut. Frères et sœurs, on est convaincus qu'un héritage de Jésus qui nous attend est plus grand que ce que le monde peut nous offrir. Pourquoi on perd du temps à essayer de gagner notre vie? Pourquoi on essaie de gagner notre vie? Pas gagner notre vie. Pourquoi on essaie de... On passe tellement d'heures à essayer d'accumuler des choses et des choses et on n'est jamais satisfait. Jamais satisfait. Et on oublie que tout ça, ça va brûler. Et on ne sait même pas ce que nos enfants vont faire avec ce qu'on va leur laisser. On passe des heures à ramasser. À ramasser. Alors que nos enfants, ils vendront peut-être nos propriétés. Quand l'argent sera déposé, ils partiront, ils feront des voyages. On ne sait pas ce que nos enfants vont faire. Ils vont se marier. On leur laisse des héritages. Ils vont peut-être divorcer. Celle qui divorce prendra peut-être la moitié de ce que vous avez passé une vie à accumuler. Mais ce qu'on a hérité en Jésus-Christ, il n'y a personne qui peut nous le voler. Personne. Ouais. Et ces choses, elles ne sont pas appelées à périr, mais à durer pour l'éternité. Quel héritage! Celui qui croit en moi héritera de la vie éternelle. Quel héritage! Tout ce qu'on peut hériter du monde, c'est la mort. C'est tout ce que le monde a à nous offrir, à comparer avec la vie éternelle. Tout ce que le monde peut nous offrir, c'est de pouponner nos maisons, qui dépérissent quand même avec les années, à comparer avec ce que Jésus est en train de nous préparer dans le ciel. Une demeure extraordinaire. Hey. Pour ceux qui sont gamblers un peu, là, hein, ceux qui sont joueurs, hey. On prend tout de suite la main que Jésus nous donne. Hein. On abandonne celle que le monde nous offre. Hein, parce qu'on est perdant à coup sûr. Amen. Ouais. Bien-aimés, les plus grandes richesses spirituelles qui sont nôtres se trouvent dans notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus est plus grand que Salomon dans les richesses qu'il possède. Permettez-moi rapidement de souligner un dernier point. Jésus est plus grand que Salomon dans l'adoration qui lui est due. Dans 1 roi, Salomon amenait les gens à adorer Dieu. Dans 1 roi, chapitre 10, verset 9, la reine de Saba ne peut s'empêcher de dire « Béni soit l'Éternel ton Dieu qui t'a accordé la faveur de te placer sur le trône d'Israël. C'est parce que l'Éternel aime à toujours Israël qu'il t'a établi roi et qu'il t'a chargé d'y faire respecter le droit et la justice. » Jésus est plus grand que Salomon dans l'adoration qui lui dit. Salomon était là pour amener le peuple à adorer Dieu. Voilà pourquoi il a construit le peuple, il a construit le temple et que Dieu lui a donné un trône. Regardez 1 roi chapitre 10 verset 18. On n'en voit pas encore de trône comme ça. Un grand trône d'ivoire recouvert d'or pur. Pas étonnant que la reine de Saba en a eu le souffle coupé quand elle a vu le trône, frères et sœurs. C'est une reine. Et elle voit le trône de ce roi. Frères et sœurs, il existe un autre trône. Et c'est Jésus qui est assis dessus, frères et sœurs. Écoutez ce que j'en dis dans Apocalypse, chapitre 5, versets 11 et 13. « Je regardais encore et j'entendis la voix de beaucoup d'anges. » Il y avait des milliers, des dizaines de milliers. Ils se tenaient autour du trône et ils chantaient d'une voix forte. L'agneau qui a été mis à mort est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et j'entendis toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et dans la mer, les créatures de l'univers entier qui chantaient à celui qui est sur le trône et l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la puissance au siècle des siècles. Ah, frères et sœurs. Le trône d'ivoire et d'or pur de Salomon. C'est rien à côté du trône sur lequel est assis Jésus-Christ. Chers amis, Salomon n'est plus sur son trône, mais Jésus est assis sur le sien. Et il ne lui sera jamais enlevé. Pourquoi nous sommes appelés? Voilà pourquoi nous sommes appelés à adorer celui qui est plus grand que Salomon. Il y a plusieurs années déjà, je vais terminer avec ça. Il y a plusieurs années déjà, un incendie s'est déclaré dans une école primaire en Caroline du Nord. Et les enfants furent piégés à l'intérieur de l'école. Une école primaire. Les hommes de cette communauté firent tout ce qu'ils pouvaient pour tenter de sauver les enfants pris au piège par ce violent incendie. Mais il était trop tard. Aucun homme ne pouvait faire quoi que ce soit pour sauver ces malheureux. Un père qui s'était rendu sur les lieux de l'incendie aperçut à travers les flammes le visage de son petit garçon. Le petit garçon vit son père et cria, « Papa, veux-tu me sauver? » Frères et sœurs, c'est le même cri que nos enfants nous adressent ce matin. « Papa, es-tu prêt à tout faire pour me sauver? » Es-tu prêt à être un modèle comme Jésus pour que je puisse être sauvé? Papa, peut-être, es-tu prêt à être un exemple pour moi pour que je puisse croire que l'Évangile, c'est le seul message qui est valable, qui est valide de me faire rentrer au ciel? Papa, peux-tu me sauver? Les gens ont dû retenir le Père, car cela aurait été un véritable suicide que d'essayer de franchir cette muraille de flammes. Et ce pauvre homme se tenait là, impuissant, regardant son fils qu'il aimait tant périr dans les flammes. Au cours de cette même année, les cheveux du Père devinrent tout blancs. Au cours de cette même nuit, les cheveux du Père devinrent tout blancs. Tout ce qu'il a vu pendant les deux années qui ont suivi cet incendie, c'était sur le visage de son petit garçon dans les flammes, et tout ce qu'il entendait, c'était la voix de son fils qui lui criait, « Papa, peux-tu me sauver? » Le cœur brisé, le père mourut au bout de deux ans. Frères et sœurs, ce monde pervers et corrompu baigne dans le péché. Baignant dans le péché a besoin d'être sauvé. Ce monde se tourne vers la science et dit, « Science, peux-tu me sauver? » La science répond, « Je peux te dire la distance qu'il y a entre le ciel et la terre, mais je ne peux pas te sauver. » Et ce monde qui se meurt se tourne alors vers la culture et dit, « Culture, peux-tu me sauver? » Et la culture répond, « Je peux t'enseigner la bienséance, mais je ne peux pas t'enseigner comment faire en sorte que ce monde ressemble de moins en moins à un enfer. Je ne peux pas te sauver. » Et ce monde se tourne alors vers l'éducation et dit, « Éducation, peux-tu me sauver? » Et l'éducation dit, « Je peux t'enseigner comment travailler sur ton ordinateur. Je peux t'enseigner l'histoire du monde, mais je n'ai aucune capacité à te sauver. » Ce monde se tourne alors vers le gouvernement et dit, « Gouvernement, s'il vous plaît, sauve-nous. » Et le gouvernement dit à ce monde en toute honnêteté, « Je ne peux pas sauver ce monde. » Et nous le savons tous, frères et sœurs. Chers amis, il y a quelqu'un de plus grand que Salomon ici ce matin. Et nous avons besoin de le chanter de tout notre cœur, « Jésus sauve, Jésus sauve. » Jésus-Christ est notre grand sauveur. Quel sauveur merveilleux je possède! Quel sauveur merveilleux je possède! Il a sacrifié sa vie pour moi. Salomon n'a rien sacrifié pour moi. Jésus, quel sauveur merveilleux je possède! Il est plus grand que Salomon, il est plus grand que n'importe qui d'autre. Qu'est-ce qui fait que notre foi est différente des autres? Vous pouvez être un confucianiste sans connaître Confucius. Vous pouvez être un bouddhiste sans connaître Bouddha. Vous pouvez être un musulman sans connaître Mahomet. Mais vous ne pouvez pas être un chrétien ni de nouveau si vous ne connaissez pas Jésus-Christ. Parce que le véritable christianisme consiste à vivre une relation vivante avec le Fils de Dieu. Chers amis, ce Jésus qui est plus grand que Salomon est ici ce matin dans ce bâtiment, car il a dit, là-haut, deux ou trois sont ressemblants à mon nom, il est au milieu de nous. Frères et sœurs bien-aimés, un plus grand que Salomon est ici ce matin. Vous saisissez ce point. Plus grand en sagesse, plus grand en richesse, plus grand en œuvre et plus grand en adoration. Celui qui est plus grand que Salomon est au milieu de nous ce matin. Et il veut faire de nous son temple, frères et sœurs. Salomon a fait des milliers d'animaux, Seigneur, lorsqu'il a dédicacé ce temple. Et nous savons pourtant qu'il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte un seul péché. Mais il y a quelqu'un au calvaire, l'agneau de Dieu, qui a pris votre péché, mon péché, sur la croix, et qui, avec son sang, a payé le prix exigé pour votre péché et pour le mien, frères et sœurs. Mes amis, un plus grand que Salomon est ici ce matin. Il est digne de recevoir votre amour. Il est digne de recevoir votre adoration. Il vous aime. Il veut enrichir votre vie. Il veut vous donner une joie et une paix indescriptibles, frères et sœurs. Il veut vous rappeler qu'il est le seul qui peut vraiment vous sauver parce qu'il est plus grand que Salomon. Amen. Je vous invite à incliner la tête, frères et sœurs, en terminant. Si vous n'êtes pas sauvé ce matin et que vous êtes dans cette salle et que vous aimeriez l'être, je vous invite à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, Seigneur Dieu, je sais que ni l'éducation, ni la science, ni la culture, ni le gouvernement ne peuvent me sauver, ainsi que toutes ces choses que ce monde m'offre pour me distraire. Seigneur, tu es celui qui sauve. Tu es plus grand que Salomon, plus grand que n'importe qui. Et ce matin, je te reçois, Seigneur Jésus, dans mon cœur. Prends maintenant le contrôle de ma vie. Je suis un pécheur et je te demande de me pardonner, de me purifier de tout péché. Seigneur, fais de moi ton temple. Sauve-moi, Seigneur Jésus. Sauve-moi. Chers amis, croyez à l'efficacité de ce sang accompli par Jésus sur la croix. Il a pris sur lui votre péché. Si vous le recevez, il fera de vous une nouvelle créature. Dites-lui de tout votre cœur, Seigneur Jésus, sauve-moi ce matin. Sauve-moi ce matin. Fais de moi non seulement ton enfant, mais ton héritier, Seigneur. Sauve-moi, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Je vais vous lever.